C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Ici, on analyse l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Je m'appelle Poli Mouzalia. Avec moi aujourd'hui, Sarah Soumbela. Bonjour Sarah.
Bonjour Poli, bonjour à tous.
Cette semaine, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin. On va voir la manière dont notre langage alimente les préjugés qu'on peut avoir envers les autres cultures, Sarah.
Oui, Pouli. Il nous arrive parfois, par ignorance ou par manque de curiosité, de juger, d'accuser, de stigmatiser l'autre simplement parce qu'il est différent, parce qu'il est étranger ou parce qu'on ne connaît pas bien sa culture. Cette attitude souvent inconsciente se nourrit des préjugés qui eux-mêmes sont véhiculés à travers nos discours.
Un exemple pour illustrer cette tendance, récemment, une folle rumeur a agité les réseaux sociaux en République démocratique du Congo, accusant les Maasai, ces nomades venus de Tanzanie et du Kenya, de vendre du poison à Lubumbashi. Sans aucune preuve, ces accusations ont semé la peur et la méfiance.
Lubumbashi n'est pas la seule ville où prospèrent ces types de discours. On voit également de tels clichés péjoratifs se répandre à Goma, où les commerçants rwandais sont soupçonnés de vendre du lait ou de la bière empoisonnée.
À Bukavu et Uvira, ce sont plutôt les jeunes filles burundaises qui, sans preuve, sont accusées de propager le VIH-Sida. Et à Kinshasa, les Swahiliphones, les Lubaphones, les Bakongo, les Bangalas, dans nos conversations de tous les jours, chaque groupe a droit à son lot de caricatures.
Alors pourquoi notre langage a tendance à être négatif, péjoratif, face à des cultures que nous connaissons mal? Comment développer un langage plus ouvert, plus curieux et plus respectueux de nos différences culturelles? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Christian Maléli. Il est journaliste et enseignant-chercheur à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC. Bonjour Christian, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci d'être là, Christian Maléli. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch radiophonique. Le cadre de cette scène est une fête qui rassemble des étudiants venant de cultures différentes. Et vous allez l'entendre, cette diversité culturelle n'est pas du goût de tout le monde. Suivons.
Ce que balance le DJ. J'ai zéro envie de bouger de cette piste.
Hein. Ah non, franchement. Ah, Mbuta, j'aimerais bien rester aussi, mais là, je crois vraiment que j'ai trop la dalle.
T'inquiète, la bouffe est déjà prête, non? On peut aller choper un truc à grignoter avant de reprendre la danse. Hein.
Ah, mais sérieux, Mbuta? Tu penses vraiment qu'on peut manger cette bouffe alors que c'est les mecs de chez Kitoko qui ont cuisiné? Ne sois pas imprudente quand même, ma chère.
Et alors, c'est quoi le souci si c'est eux qui ont cuisiné? C'est plutôt cool si on goûte au plat de chez Kitoko. C'est une occasion de découvrir un peu. Après tout, aujourd'hui, c'est une fête interculturelle.
Vraiment? Les gens de chez Kitoko, c'est de la vieille école, avec des traditions cheloues. Perso, je te dis, moi, je préfère ne pas toucher à cette bouffe qu'ils ont préparée.
Ouais, je te dis. Pourquoi, man?
Mais les gars, c'est de la bonne bouffe.
Quoi? Quelle bonne bouffe? Bien, oui.
Les gars, le dis pas moi, Tchingani. Il paraît que dans leur tradition, ils cuisinent avec de la pisse de chèvre au lieu de...
Quoi? Quoi?
Vous vous imaginez? Vous rendez compte?
Chèvre? Wesh. C'est mort. Les gars, je suis foutu.
Il y a quoi, frère?
Je suis foutu.
Il y a quoi?
Je viens du réfectoire. J'ai gratté déjà un morceau. Mais ça coule, moi, mais la tarte
existe. Je comprends, mon gars.
Il paraît que dans leur tradition, ils cuisinent avec de l'urine de chèvre au lieu de l'eau, affirme l'un des étudiants qui a manifestement du mal à goûter des plats cuisinés par des étudiants issus d'autres cultures. Voilà comment l'ignorance de la culture ou des traditions des autres peut nourrir la peur et la suspicion. Alors Christian Malélé, pourquoi selon vous, nous les êtres humains, avons du mal à faire d'emblée confiance aux autres, ceux issus d'une autre culture, d'une autre ethnie ou d'une nationalité différente?
Alors les raisons sont vraiment nombreuses parce que en tant qu'humain, donc on a d'abord naturellement le souci de se sécuriser en fait, parce que l'être humain ou l'homme cherche de toutes les manières pour sécuriser ses biens ou se sécuriser aussi, pouvoir sécuriser sa communauté. Et c'est sur base de cela que l'être humain a tendance à tout faire pour préserver ses biens, préserver sa vie et préserver la vie de sa communauté. Alors là, on parle déjà des intérêts. Donc c'est-à-dire, l'être humain a des intérêts. Et tout le monde cherche ses intérêts, à préserver ses intérêts. Et c'est sur base de cela que les gens ou les êtres humains prennent des décisions et agissent dans la communauté et de manière collective. Alors, pourquoi il y a cette tendance de s'écarter ou de ne pas respecter les traditions des autres, la culture des autres et tout? C'est ce que je disais, en fait. Il y a des intérêts qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques, qui peuvent, par exemple, toucher les questions liées, par exemple, aux terres, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas céder leurs terres, qui ne veulent pas se mixer avec d'autres tribus, d'autres ethnies. Et c'est vraiment ce côté-là, donc les intérêts qui doivent être préservés. Et au-delà des intérêts, il y a d'autres facteurs qui sont vraiment liés à l'être humain. Par exemple, le fait de ne pas vouloir s'informer. Donc, c'est limite très souvent à des rumeurs et à des informations qui sont actuellement, je dirais, transgénérationnelles, parce que ce sont des choses que nos parents ont apprises et qui nous ont...
Des préjugés, des stéréotypes, vous voulez dire. Oui.
Exactement. Donc, j'ai dit, ça transcende vraiment où ça passe de génération en génération. Parce que lorsqu'on était, par exemple, enfant, il y a dans des familles où des parents qui disent déjà à leurs enfants, il ne faut pas épouser une femme de telle tribu, de telle nationalité. Donc, c'est-à-dire, l'enfant grandit déjà avec ces genres d'informations parce que l'enfant fait confiance en ses parents. Il n'a pas assez d'informations. Et des adultes aussi, qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas assez de temps pour s'informer sur des cultures, sur la manière de vivre d'autres ethnies et cultures, donc sont prêts à tout faire parce qu'ils ignorent complètement ce que cela signifie pour d'autres communautés.
Vous voulez dire que tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans la culture de l'autre peut nous sembler étrange, bizarre et soulève donc nos doutes et notre suspicion. Est-ce que c'est pour cela que nous en parlons de manière si méfiante, si péjorative?
Oui, alors je disais, comme je venais déjà de le dire, donc il y a des intérêts que nous voulons vraiment préserver. Par exemple, l'être humain a vraiment du mal à s'adapter ou plutôt à abandonner ses habitudes. Donc, vu qu'on ne veut pas s'adapter à la culture des autres, donc on peut le juger de tout parce qu'on ne veut pas s'adapter, on ne veut pas adopter cette culture. Donc, raison pour laquelle, vu qu'on ne veut pas adopter cette culture, on ne veut non plus que nos enfants puissent adopter cette culture. Donc, on veut maintenant créer des faux messages, des faux discours pour créer juste la peur afin que nos enfants ne puissent non plus adopter ces cultures. Donc c'est juste le refus de l'autre. On ne veut pas évoluer, on ne veut pas vivre dans un monde qui est uni, qui est unique, où on échange des valeurs, on échange des idées, on échange des pensées et tout. Donc vu qu'on veut vraiment rester vivre dans une communauté vraiment trop restreinte, raison pour laquelle on refuse où on ne veut pas accepter les traditions des autres, on ne veut pas respecter la culture des autres ou les idées, les pensées véhiculées provenant d'autres communautés.
Christian Malélé, je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de lutte contre la désinformation. Pourquoi les gens ont tendance à croire à des rumeurs qui les poussent à voir l'autre, l'étranger, comme la source de leur malheur?
Alors, les raisons sont multiples, mais avant de parler des raisons, je parlerai d'abord des acteurs, parce que le discours de haine de foi vont de pair avec le fake news ou les fausses informations. Dans la désinformation, par exemple, ou dans les désordres de l'information, nous avons trois actions, La première, c'est la désinformation. La personne qui diffuse cette information est consciente de l'état de cette information, mais a quand même des intérêts et publie cette information pour induire en erreur. Et au deuxième niveau, nous avons la mésinformation. La personne qui diffuse la fausse information ignore totalement son état. C'est presque pareil avec le discours de haine. Il y a des gens que moi j'appelle des complotistes. Il y a des gens qui visent certains intérêts que la population ou la masse ignore totalement, mais créent des discours, créent de messages pour toucher ou nuire à une catégorie de personnes, à un espace linguistique. Et il y a vraiment des intérêts qui peuvent être économiques, comme je venais de le dire, ou politiques, voire au-delà de la politique. Et il y a des gens que moi j'appelle personnellement des facilitateurs. Des facilitateurs, ce sont des personnes qu'on retrouve dans la mésinformation, dans des personnes qui ignorent totalement les intérêts des complotistes, mais qui sont là juste pour véhiculer le message créé par des complotistes. Et ils ignorent totalement les intérêts visés, mais facilitent quand même la transmission de ces messages ou la diffusion de ces messages. Et en dernière position, nous avons maintenant des victimes. Donc des personnes qui sont directement touchées par ces messages, parce que le message, les discours de haine visent, je dirais, deux choses. Si pas dénigrer une personne ou un groupe d'individus sur base de leur race, de leur langue, de leur religion ou consort, c'est aussi pour inciter à la haine. Et quand on incite, plutôt inciter à la violence. Quand on incite à la violence, c'est pour quitter le stade de réflexion ou de raisonnement, mais pour vraiment arriver au stade où
de l'action.
Donc on veut vraiment agir, on veut directement toucher à la vie humaine.
Mais comment ce langage méfiant envers l'autre, accusateur sans preuve, se développe-t-il dans nos conversations de tous les jours et sur les réseaux sociaux?
Alors la première des choses, c'est d'abord la carence de l'information. Lorsqu'on n'a pas assez d'informations, donc on a tendance à tout dire sauf dire la vérité. Alors, lorsqu'on n'a pas assez d'informations sur un fait, sur une culture ou sur un groupe d'individus, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de s'informer. C'est vrai qu'on veut contrôler, on veut savoir comment s'est comporté vis-à-vis de telle personne, de tel groupe de personnes, mais il faut d'abord s'informer, parce que si on n'a pas d'informations, on sera tenté de réfléchir sur base des choses qui n'existe pas et prendre des décisions en jugeant de loin, en ayant de caricatures ou des clichés qui n'ont rien à voir avec la réalité.
Merci pour ces explications, Christian Malélé. Ceci nous permet d'aborder la deuxième partie de cet échange. Mais avant, écoutons un nouvel extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants dans leur fête multiculturelle. On va voir comment la situation dégénère à cause de ce langage méfiant, accusateur, que certains d'entre eux développent. On écoute.
Ça dit quoi, le gars? Alors, vous avez vu la tenue que je porte, hein? C'est la tenue traditionnelle de chez nous. Cool, n'est-ce pas?
Kitoko,
s'il te plaît, reste éloigné.
Avec ta tenue de barbare, là. Regarde comme elle a dit.
Mais je fais quoi de mal? Nasali Nini Yamabe. Jaloux de qui? De ma tenue.
Ah, Njumana. Ouais, on y va, on dirait que vous sortez tout droit de la préhistoire. Avec vos habits, là. Ah, bah, toi, voilà nous. Mais sérieux, vous délirez
avec ce genre de discours aussi.
Non, on dirait plus des animaux que des humains.
Mais ça, c'est quel animal, ça? Vous, je suis en train de te dire d'arrêter. Traiter les autres de sous-développés ou de barbares, c'est quand même grave.
Non.
Mais moi aussi, je vous l'ai dit, ils sont trop bizarres.
Même toi.
Oui, mais oui.
Même toi.
Je les confirme.
Non, les gars, arrêtez.
Mais les gars, j'ai failli crever après avoir mangé leur bouffe. Je crois qu'ils ont voulu m'empoisonner. Baltan passait à tout soum.
Là, vraiment. Je crois que je pique maintenant pourquoi le taux de réussite a baissé à la fac. Depuis que Kitoko et les autres ont débarqué avec leur tradition du Moyen-Âge et qu'ils ont été impliqués dans la cuisine, on est devenus bêtes.
Carrément.
Ouais, c'est ça. Tout le monde est déjà bête là.
C'est sûrement à cause de cette puce de chèvre qu'ils mettent dans la bouffe.
Merde.
Dégueu. Comment ils font ça?
Non, c'est
pour ça qu'on devient débile.
Non, mais là, ce que vous rencontrez est insupportable. Mais vous êtes taré ou quoi?
Non, c'est une vérité.
Vous n'avez pas le droit d'insulter notre communauté.
C'est simple, petit toco.
Non, vous n'avez pas le droit de nous insulter comme ça.
Ici, ce n'est pas votre place, quand même.
Oui, c'est pas votre place.
L'université a besoin d'étudiants civilisés. Pas de version bêta qui foutent la poisse au campus avec l'air délire d'un autre siècle.
Non, mais...
J'ai failli crever. J'ai failli crever après avoir mangé leur bouffe. Je crois qu'ils ont voulu m'empoisonner, martèle l'un des personnages. Christian Malélé, à partir de quel moment ces rumeurs véhiculant de stéréotypes sur certaines communautés deviennent dangereuses?
Alors, ça devient dangereuse lorsque on commence vraiment à ressentir ou à voir l'impact de ces discours dans la vie réelle. Par exemple, on dit, parce que moi aussi j'ai entendu à Kinshasa des discours selon lesquels, par exemple, les femmes loubas urinent par exemple au lit. Et je me dis, mais ces genres de discours, par exemple, peut faire en sorte que certaines personnes ou certains hommes n'épousent par exemple pas de femmes loups parce qu'ils ont certainement des informations qui sont totalement erronées mais que par peur donc ils se disent bon on ne peut pas prendre ces genres de femmes. Alors moi je me dis à quel moment c'est lorsque ça devient vraiment réel, parce que ce qui est sur les discours de haine, c'est vraiment un phénomène qui est réel et qui a un impact, je dirais même plus direct que les fausses informations, parce que les discours de haine, si ça ne permet pas, ça ne facilite pas par exemple la discrimination, ça incite directement à la violence. Donc quand on parle de la violence, donc on voit toutes les conséquences possibles. Donc on peut commencer par exemple un faible coup jusqu'au niveau de peut-être tuer une personne. Donc ce sont des conséquences qui sont réelles et qu'on peut vraiment voir au sein de notre communauté. Il y a par exemple des gens qui actuellement à Kinshasa qui refusent d'avoir des locataires, vous allez m'excuser, d'avoir des locataires louba. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu quelque part quelque chose, un fait qu'ils n'ont même pas vérifié. Donc ils se disent que non, on ne peut pas avoir de louba par exemple dans notre parcelle, alors qu'un louba c'est un Congolais. Et la constitution permet à tout Congolais d'aller partout,
de s'installer
où il veut. Et il y a des lois qui protègent tous les Congolais, tous les citoyens congolais. Alors, sur base de quoi vous pouvez, par exemple, refuser un louba d'être chez vous parce qu'il est venu pour payer, il va payer son loyer à la fin du mois. Donc ces genres de discours sont vraiment réels et on les constate régulièrement partout où nous nous rendons, que ce soit dans des écoles, même dans des universités, dans l'administration publique, dans des entreprises privées. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qui circulent sur les réseaux sociaux, qui circulent à travers les médias, qui circulent même dans des communautés sous forme de rumeurs et tout, qui par exemple disent par exemple que non, il ne faut pas accepter telle catégorie de personnes, telle communauté, parce que ces genres de gens, par exemple de Swahili, sont des ivrognes, ces genres de discours. Vous pouvez vous dire, mais en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas engager un Swahili-phone parce que donc il sera à tout moment
ivre
et tout, parce qu'il est alcoolique. Donc ça peut déjà disqualifier une catégorie de personnes et disqualifier toutes ces personnes juste à cause d'un discours qu'on n'a pas vérifié et qui n'est pas authentique. Et le problème, c'est qu'on a tendance à généraliser des cas isolés. Donc on peut rencontrer un cas isolé, mais on s'est dit directement que tous les loups sont ainsi, tous les Swahili sont ainsi, alors que c'est juste un cas isolé.
Merci Christian Malélé. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans la lutte contre la désinformation. Vous avez certainement vu passer cette folle rumeur qui a agité la toile congolaise il y a quelques semaines et qui prétendait que les Maasai vendraient des poisons à Lubumbashi. Une rumeur sans fondement pointant du doigt une communauté étrangère et donc minoritaire. Quelles peuvent en être les conséquences dans ce cas spécifique?
Alors les conséquences sont réelles, comme je le disais, parce que les discours de haine incitent directement à l'action, vu que ça touche aussi nos émotions, parce qu'on a tendance à vouloir nous sécuriser, vouloir rejeter des cultures, rejeter des personnes et tout. Les conséquences seront vraiment réelles ou sont déjà réelles, parce que cette communauté est venue de la Tanzanie. Par exemple, avant de débuter cette émission, j'avais eu le temps de faire le tour sur les réseaux sociaux pour voir ce qui s'est dit à propos de ces groupes. Je me suis rendu compte qu'il y a eu une réunion récemment où on sensibilisait cette communauté sur la même chose. Et je me suis dit, ce n'est pas tous les ressortissants de cette communauté qui sont dans ces lots, dans les lots, par exemple, de gens qui vendent des poisons, par exemple. Et on n'est pas obligé ou nous ne devons pas généraliser des cas qui sont isolés. Donc nous sommes appelés à, ou la population est appelée à accueillir toutes les populations venues de partout parce qu'on est dans un monde où nous vivons. Nous vivons en communauté, donc il n'y a plus de barrières et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne doit pas généraliser des cas qui sont isolés. Donc on doit, c'est vrai qu'on est censé rester prudent, mais on ne doit pas avoir de préjugés, on ne doit pas avoir de clichés parce qu'on avait arrêté quelqu'un qui est ressortissant de cette communauté qui vendait par exemple du poison et le généraliser à toute la communauté parce que certainement dans cette communauté il y a des gens qui sont responsables, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, qui sont des entrepreneurs, qui sont dans l'agriculture, qui sont partout. Et on ne peut pas généraliser un fait qui est isolé, un fait qui est peut-être banal, un fait qui ne peut pas être imputé à tout le monde.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les préjugés, les clichés, les stéréotypes font partie de notre langage courant. À titre d'exemple, vous en parliez, les Baswahili seraient portés sur l'alcool, les Balouba seraient vantards, et ainsi de suite. Ce sont des propos qui se tiennent le plus souvent sur le ton de la plaisanterie. À partir de quel moment on n'est plus dans la plaisanterie, on passe à des discours dangereux et même des discours de haine? Où se trouve la différence?
Alors la différence se trouve au niveau où on commence maintenant à lancer des appels. Lorsque je dis par exemple, en plaisantant bien sûr, je dis par exemple, ah les loups sont vantards, là je plaisante par exemple. Mais quand je dis les loups sont vantards et il ne faut pas les laisser prendre par exemple le pouvoir, là je commence déjà, donc je dépasse déjà les bornes parce que j'appelle à l'action. C'est-à-dire cette action-là, des personnes qui sont moins informées ou des personnes qui sont des facilitateurs, comme je le disais, peuvent prendre juste ces messages, commencer à les vulgariser, à les diffuser partout, à sensibiliser même pour juste empêcher une communauté à ne pas accéder à telle fonction. Alors que nous sommes Congolais, nous sommes appelés à cohabiter, à rester ensemble. Et ces genres de discours sont vraiment des discours, comme je le disais, à bannir parce que lorsqu'on commence à faire des appels pour discriminer, pour écarter, pour appeler même à toucher des gens physiquement et tout, là on quitte la plaisanterie pour la réalité. Donc là vraiment on commence déjà on doit vraiment prendre ces discours au sérieux parce que ça appelle, ça incite à l'action.
Voilà, écoutons un troisième et dernier extrait de notre sketch radiophonique, toujours avec les étudiants. Ils découvrent enfin une manière plus ouverte, plus respectueuse de parler de la culture des autres. On écoute.
Pas comme ça.
Non mais sérieux les gars, arrêtez un peu. C'est pas une villageoise. Arrête de dire ça. Hein? Vous entendez ce que vous
dites? Lui il est pire qu'une villageoise.
En fait. Oh non, oui, arrête. On est où là?
Mais attends, ce qu'on dit c'est pas faux. Pourtant c'est vrai ce qu'on dit là.
Écoutez, je vous rappelle que nous avons tous déjà mangé plusieurs fois la nourriture préparée par Kitoko et ses potes. Avez-vous eu l'impression que ça avait le goût de la pisse?
Maman,
bon, mais si, ouais.
Mais je vous dis, avant j'ai kiffé cette bouffe.
Moi j'avais entendu comme quoi chez Kitoko, il lave les verres aller avec de la pisse des vaches.
Berk.
Oui, déjà ça, moi je l'ai trouvé assez bizarre.
Mais tu as
c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse.
Je vous dis les gars, et du coup quand on m'a raconté qu'il préparait la nourriture avec de la pisse de chèvre, j'ai flippé et j'ai cru directement quoi.
Donc dès qu'un truc vous semble différent ou inconnu dans la culture des autres, c'est forcément barbare ou nul.
Loba nona noata. Vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt essayer de capter la culture des autres? Vous ne trouvez pas? Au lieu de balancer des clichés et des accusations bidons qui ne tiennent même pas. Arrêtez ça, s'il vous plaît.
Les gars, il faut faire attention à votre langage. Il faut faire attention. Vous dénoncez avant de même comprendre. C'est justement en découvrant les autres façons de faire qu'on peut apprendre à vivre ensemble.
C'est ça, exactement.
Oui. Chaque culture a ses trucs à apporter. Il faut juste ouvrir un peu son esprit.
Il faudrait plutôt essayer de comprendre la culture des autres au lieu de balancer des clichés, des accusations bidons, conclut l'un des personnages du sketch. Christian Malélé, comment peut-on promouvoir un langage qui valorise le respect et la diversité culturelle au lieu de renforcer les préjugés?
Alors, la seule remède reste l'information. Lorsqu'on ne veut, on est devant une culture qu'on ignore totalement, il ne faut pas d'abord se créer des idées. Il ne faut pas se dire des choses sans pour autant avoir des informations qui sont exactes. Il faut approcher ces gens, vouloir chercher à comprendre comment est-ce que ces personnes vivent, quelles sont leurs traditions et comment ils considèrent le monde, comment ils considèrent, par exemple, le mariage. C'est à ces moments-là que nous allons apprendre comment cette communauté considère des choses qui peuvent être peut-être, leur représentation peut être différente de notre culture, mais nous sommes obligés de le respecter parce qu'on est censé vivre ensemble, on est censé promouvoir l'unité. Donc on doit respecter la culture des autres parce que dans cette culture-là, il y a des choses qui sont tenues sacrées, des choses qui sont considérées comme sacrées, que cette culture-là ne peut jamais abandonner même si le monde évolue.
Mais justement, quel rôle peuvent jouer les médias comme vous, hein, les écoles, vous êtes également enseignant, mais aussi les pouvoirs publics pour encourager une meilleure connaissance de nos cultures respectives et lutter contre les clichés péjoratifs.
Alors, il faut commencer juste par la sensibilisation. Donc, il faut sensibiliser les gens. Et dans la sensibilisation, il faut informer les gens. Il faut faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose. Il faut se limiter par ici. Parce que telle culture, c'est peut-être ou telle chose est sacrée pour telle culture. Et il y a des lois qui régissent le pays, qui condamnent les discours de haine, qui condamnent la désinformation ou les fausses informations. Et il faut vraiment tenir compte de tout ça. Donc, il faut vraiment mener des campagnes à travers des médias pour sensibiliser la population sur des manières de vivre de chaque communauté et pourquoi tel fait n'est pas vrai. Donc on peut inviter des experts pour nous donner des informations sur des faits qui sont réels afin de contrecarrer des discours qui sont infondés, des discours qui n'ont pas de soubassement. Donc inviter des experts, vulgariser des connaissances qui sont avérées, des connaissances qui sont vérifiées et vérifiables. Et sur le plan gouvernemental, par exemple, il y a le ministère de la jeunesse qui s'occupe aussi de la cohésion nationale. Donc ce ministère est censé travailler pour rendre unies toutes les communautés et véhiculer un message qui est censé faire promouvoir l'unité.
Voilà, on va considérer que c'était le mot de la fin. C'est donc sur cette note que nous concluons ce magazine. Nous venons de voir à quel point l'ignorance de l'autre est souvent à l'origine des clichés, des préjugés. Apprendre donc à connaître les cultures et les habitudes de nos voisins, c'est faire un pas vers une société multiculturelle et apaisée, Sarah.
En effet, Polly, il est temps de changer notre regard, de questionner nos certitudes et d'ouvrir nos esprits. Un langage respectueux est la première étape vers une société plus juste et plus fière de sa diversité culturelle.
Merci à Christian Malélé qui a été notre invité de ce jour. Merci également à Paul Badianyama qui nous a accompagnés du côté de la technique. Et bien sûr, merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices, pour votre attention et vos réactions de plus en plus nombreuses sur nos réseaux sociaux.
Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Capi. Retrouvez cette émission en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 sur Radio Capi ou en podcast sur www.radiocapi.net et www.abarirdc.net.
À très bientôt pour un nouveau numéro de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir.
C'est le ton qui fait la panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Capi.